BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est quasiment midi 2 sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité, actualité économique, marqué par un rendez-vous aujourd'hui, la prise de parole du nouveau patron de la Réserve fédérale américaine au forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra au Portugal. Première grande apparition internationale de Kevin Warsh avec un discours particulièrement attendu par les investisseurs en quête d'indications sur la politique future de la Fed, d'autant plus attendu que seront publiés demain les derniers chiffres de l'emploi américain. En France, le secteur automobile se maintient. Les ventes de voitures neuves terminent le premier semestre en hausse de quasiment 2%, plus 11% même sur le seul mois de juin, même si cette forte hausse du mois dernier est essentiellement liée aux deux jours ouvrés supplémentaires par rapport à l'an dernier. L'électrique poursuit sa montée en puissance et pèse désormais 30% du marché. Enfin, ce mercredi 1er juillet, sachez qu'il n'y aura pas de hausse des allocations chômage, pas de revalorisation pour la première fois depuis 10 ans, faute d'accord entre les partenaires sociaux qui gèrent l'UNEDIC. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de nos logements, de notre immobilier. Comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur au sens large. Des témoignages terrain de vos métiers, des tendances qui émergent, qui se confirment parfois. Et aujourd'hui, par exemple, on va aller faire construire sa maison, non pas pour y vivre toute l'année, pas encore en tout cas, mais bien pour installer sa résidence secondaire. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour, un agent immobilier, une courtière, ce sera parfait pour faire un point d'étape sur ce vaste marché de l'immobilier existant. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Maxime Bretel, directeur général de Maison MCA. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Je le disais, vous êtes constructeur de maisons. Est-ce que vous constatez ? C'est qu'en fait, désormais, parce qu'on a l'image de celui, de celle, de ce couple, de ce ménage, de cette famille qui fait construire sa maison pour y vivre très très vite, tout de suite. Et ben maintenant, vous avez aussi des clients qui font construire leur résidence secondaire.
Bien sûr, et de plus en plus. Alors après, c'est une catégorie de clientèle qui va essentiellement se situer, donc nous on est en Nouvelle-Aquitaine, hein, sur le secteur du bassin d'Arcachon, de la côte landaise et du Pays Basque. Les biens concernés, ils sont surtout très personnalisés, c'est l'avantage du neuf, design, confort, ils vont être aux normes énergétiques modernes, ils vont être adaptables, bien sûr, parce qu'on peut également vieillir dans ce logement, et ils vont avoir une forte valeur patrimoniale.
Mais alors, juste je vous interromps, Maxime, oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur le papier, alors après, en plus, on m'accuse souvent de faire la promo des constructeurs de maisons, mais c'est vrai qu'il y avait tout un tas d'arguments qui étaient de dire, notamment sur les conditions d'emprunt, avoir un prêt à taux zéro, par exemple, tout ça. Ça, c'est mort si c'est ma résidence secondaire que je fais construire. J'ai pas de conditions de financement plus favorables que les autres, du coup.
Pas du tout. Pas du tout. On va quand même être sur une clientèle qui a nettement plus de revenus. La clientèle en question, on y reviendra j'imagine, mais c'est une clientèle essentiellement composée de deux variables. Vous avez les futurs retraités qui ont une soixantaine d'années, et de l'autre côté, vous allez avoir des cadres et professions libérales autour de 45 ans qui effectivement ont des budgets plus importants.
Et justement, c'est quoi les budgets? Parce que là, j'ai Alban en régie, notre réalisateur, qui est toujours partie prenante de l'émission, qui me dit, mais du coup, ça doit être quand même des budgets qui sont pas du tout les mêmes que quand on fait construire sa maison pour sa famille sur le marché traditionnel de la construction de maison. On parle de budgets qui sont beaucoup plus élevés, effectivement, non?
Il faut distinguer deux choses. En réalité, plus vous êtes sur des terrains, des secteurs prisés, plus le terrain va être cher. En revanche, la construction en elle-même, elle ne va pas exploser de manière exponentielle. Donc, effectivement, vous allez avoir une clientèle qui a plus de budget parce qu'ils peuvent avoir des terrains plus chers. Pour vous donner un petit exemple sur le bassin d'Arcachon, vous cherchez une petite maison, allez, on va dire 95 mètres carrés, pour aller passer votre retraite, enfin prendre d'abord une résidence secondaire, puis se projeter en RP plus tard, vous allez avoir un ticket d'entrée à 450 000, 500 000 euros. Eh bien, ça, c'est le coût sur du neuf, actuellement, aujourd'hui. En revanche, vous allez dans l'ancien, bah, vous allez avoir également une faible offre sur des petites surfaces et au prix également de 450, 500 000 euros. Sauf que là, il faudra rajouter une enveloppe budgétaire assez importante pour rénover la maison et la faire à ses goûts. Donc, parce que vous imaginez bien que pour mettre la climatisation, rendre accessible une maison, la remettre au goût du jour, c'est un billet.
Donc, oui, en réalité, parce que l'idée, c'est aussi que c'est l'idée, c'est comme on veut finir nos vieux jours là-bas. L'idée, c'est aussi que ce soit accès aux personnes à mobilité réduite. C'est ça le sujet aussi que permet le neuf aujourd'hui et qui demande peut-être moins de frais à la fin.
Exactement, parce que dès le départ, alors après il y a des normes constructives, donc effectivement, alors pour une maison individuelle, quand on la construit pour son compte, on n'a pas d'obligation très poussée en termes de PMR, mais en revanche sur ces clientèles, notamment futurs retraités qui prennent une résidence secondaire au départ, ils vont être attentifs effectivement à ce que la maison soit accessible. Notamment, vous avez des maisons très communicantes intérieur-extérieur. Vous avez le type, c'est des maisons avec un séjour ouvert, avec une grande baie, en continuité avec une terrasse et un espace extérieur. Et vous êtes sur un secteur où il y a toute commodité en général à proximité, donc c'est idéal pour se projeter.
Non, bien sûr. Après, on arrive un petit peu au bout de notre séquence, mais quand même, il y avait quand même un autre exemple que vous donniez sur ces bien fameux cadres de 30, 45 ans, plutôt 45 ans, ou alors ils ont vraiment beaucoup de chance quand ils peuvent dépenser 1 million d'euros pour faire construire leur maison. Là, on est quand même sur des budgets considérables.
Oui, mais le bien a une autre fonction. Il sert effectivement à aller en vacances le week-end ou en vacances dans sa maison secondaire, mais il peut être aussi loué sur les plateformes de location saisonnière, comme vous le savez, et c'est un complément de revenu. De même, c'est un investissement à court ou moyen terme, parce que ce qu'on constate sur les dernières années, c'est de toute manière, c'est que la cote a toujours augmenté en termes de tarifs. Donc c'est un très bon investissement, mais effectivement avec des budgets plus importants.
Et là, on est où, là sur ce budget toujours, pareil,
le budget
toujours dans
le bassin.
D'euros,
là, c'est le cas, vous êtes à Carcan, donc c'est une petite ville bassin avec un lac, un très beau lac qui est assez connu. Le terrain en lui-même coûtait 300 000 euros, mais effectivement, les gens dessus vont édifier une maison à 600 000 euros. Vous rajoutez la piscine, les jardins, les aménagements, vous êtes sur un budget très cossu. Mais par contre, la valeur du bien est réelle. C'est un très bon investissement patrimonial.
Et ben voilà, comment on fait construire sa maison pour une résidence secondaire et peut-être même une future résidence principal pour nos retraités. Merci de votre témoignage, Maxime. Maxime Bretel, directeur général de Maison MCA, qui était dans notre pro de l'IMO du jour. Si, comme Maxime, vous avez des témoignages terrain à nous apporter, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr.
Les experts de l'IMO, le débat.
Je le disais en préambule, une courtière, un agent immobilier, c'est parfait. Notre courtière en chef, Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financez. Bonjour Sandrine.
Bonjour Marie.
Et Brice Cardy, le patron du réseau L'Adresse, est également avec nous. Bonjour Brice.
Bonjour Marie et bonjour Sandrine.
C'est bien, ils sont tous dit bonjour. On va pouvoir commencer parce que là, grâce à vos compétences et votre analyse très fine du marché à tous les deux, on va pouvoir faire finalement un point global sur l'état du marché actuel. Pour l'instant, on a eu la publication de tous les grands réseaux, dont le vôtre, Brice, L'Adresse, qui a publié aussi cette semaine. Pour l'instant, on a le sentiment qu'on avait démarré l'année plutôt pas trop mal, que le premier semestre se termine un peu difficilement. Maintenant qu'on a effectivement des perspectives, des espoirs d'apaisement au Moyen-Orient, est-ce qu'on peut se dire que là, ça y est, on a passé le plus dur et la deuxième partie de l'année s'annonce meilleure ?
Vous avez bien entamé le sujet. En effet, ça se matérialise par un premier trimestre où on a tout simplement, si on le compare avec celui de l'année dernière, on était à plus de 10% en termes de volume de vente.
Donc c'était plutôt cool.
C'était même plutôt bien.
Ouais.
Et on a un petit peu cassé l'ambiance avec plein de raisons qu'on aura peut-être le temps d'évoquer.
Ah,
ce qui fait qu'on termine le semestre à moins 4%. Si on le compare également à la même période.
Donc, prise en compte de ce deuxième trimestre qui est quand même pas tip-top. Mais c'est quoi qui a plombé le marché ?
Il y a plein d'éléments. Il y a le début de la crise, en effet, au Moyen-Orient. La conséquence visible chez nous en France, c'est l'inflation et notamment l'augmentation conséquente de l'essence. On s'est aperçu pour la énième fois, on avait déjà débattu sur l'histoire du Covid et du confinement, que finalement on fait un métier où les gens ont besoin de se mobiliser, donc ce qui est plutôt rassurant dans une ère où beaucoup de choses évoluent, changent, se transforment avec l'IA. Donc là, ce qui est rassurant pour nous, agents immobiliers, c'est que les clients ont besoin de se déplacer, de sentir, de prendre l'ambiance, l'atmosphère avant de se prononcer sur leur acquisition. Donc clairement, il y a eu le premier sujet, l'inflation, l'essence. Quand l'essence coûte cher et que se déplacer coûte très cher, généralement, on va aux priorités et on va pas forcément aux obligations. Donc ça, c'est un premier constat. On a eu ensuite, un mois de mai avec des ponts qui se sont mal succédés. Je crois que ça fait partie des années un peu records où c'est plus des trous dans la raquette, c'est carrément une raquette où il y a plus de filets. Et puis enfin, on a eu un mois de juin qui a repris des couleurs. Je ne sais pas si Sandrine le confirmera, mais on a eu un mois de juin qui a repris des couleurs et hop, est arrivée la canicule. Et pareil, alors vous allez me dire qu'à l'époque, vous vous moquiez un peu de moi quand je expliquais, rappelez-vous, il y a eu une crue pas possible, où il ne s'était pas arrêté de pleuvoir à Paris et ailleurs en France pendant pratiquement 3 semaines. Et je vous avais dit exactement le même constat, quand il pleut, on a moins envie de se déplacer, de sortir de chez soi. Et bien là, la canicule, clairement, je vous le dis, ça a été...
Ouais, mais là, je ne me moque pas de vous, Brice. Je pense qu'on a tous eu conscience des répercussions. Voilà.
Et là, clairement, et c'est marrant que j'avais une réunion avec d'autres associés de d'autres endroits que l'Île-de-France, et ils m'ont tous communiqué le même constat. Lorsqu'il fait très chaud et qu'on a envie de se rafraîchir là où on peut, on évite de se déplacer dans les transports communs et autres. Donc là, pareil, il y a eu carrément une dizaine de jours où le marché a été pratiquement à l'arrêt.
Sandrine, de ce qu'a dit Brice, de ce résumé assez complet quand même de ce premier semestre, il y a quand même un élément clé qui est ce sujet de l'inflation qu'il a mis beaucoup en avant, et c'est évident qu'on en a beaucoup parlé. Pourquoi ? Parce que ça a eu une incidence directe sur nos crédits immobiliers. Alors, la hausse qu'on a constatée, elle n'est pas énorme, mais n'empêche, ça a quand même eu ça aussi, un effet psychologique sur les acheteurs.
Oui, oui, tout à fait. Et là, pour répondre à ce que vous disiez avant, je pense qu'on a évité le pire. En termes de hausse des taux de crédit, on a eu très chaud sur les taux, puisque on a quand même eu des taux d'emprunt d'État qui ont dépassé les 4% au mois de mai. Là, on est redescendu en dessous des 3,6%. On a une inflation qui a atteint également plus de 2,5%. Là, on est redescendu à 1,8%. Donc finalement, les craintes qu'on a eues sur les taux de crédit sont restées assez limitées. Pourquoi ? Parce que justement, cette baisse de la demande qu'ont pu constater les agents immobiliers, les banques l'ont ressenti également. Sauf que elles ont des objectifs de production de crédit à faire. Elles veulent faire plus 10% à peu près que l'année dernière. Et pour ça, il faut qu'elles soient compétitives, qu'elles prêtent vraiment à des taux très bas. Donc, on a eu ces offres spéciales de la part de banques nationales, dont une grande banque nationale qui a fait son taux unique à 3,10%.
La Société Générale, on va en parler.
Voilà. Et qui va...
elle communique suffisamment après, massivement partout là-dessus. Hein,
donc, et qui va prolonger. Donc ça, on va en parler après. Mais, et donc, finalement, on a eu une hausse de taux qui est restée très limitée, mais avec des écarts qui se sont creusés entre des banques moins offensives et plus attentives à leur rentabilité et d'autres qui étaient là vraiment. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les taux de crédit, ce ne sont plus vraiment le problème ni le frein. Vraiment, c'est l'état psychologique et la volonté des gens d'acheter, de se déplacer et de ne pas repousser leurs projets à d'autres moments.
Alors vous dites qu'il y a quand même effectivement un sujet psychologique, on la connaît, l'autocensure finalement des gens qui disent « Oh là là, les taux remontent, je ne pourrais pas acheter ». N'empêche, il y a quand même eu vraiment une petite, mais une augmentation des taux, puisqu'on est passé, je crois, en début d'année autour de 3,20, 3,30. Là, on est plutôt autour de 3,5 en moyenne, quand même.
Oui, c'est à peu près ça. Oui, tout à fait. Donc oui, il y a eu cette remontée des taux, mais elle est restée limitée, avec des banques qui sont toujours restées flexibles sur l'apport. Donc finalement, il y a eu peu d'évictions...
techniques, mathématiques.
Voilà, il y a eu peu d'évictions mathématiques, mais plutôt une autocensure que les banques ont dû combattre en proposant justement ces prêts aidés, ces offres spéciales, mais qui sont peut-être arrivées un peu tardivement. Finalement, elles se sont réveillées sur le mois de mai, juin, quand c'était déjà un peu tard et que la demande était déjà un peu plus limitée.
Alors justement, une question, Brice, par rapport à cette demande, ce côté un peu autocensure et le fait qu'il y ait eu des jours où il ne se soit rien passé pendant la canicule ou là, il y a eu les ponts du mois de mai. Est-ce que finalement, cette demande qui baisse quand même réellement, est-ce qu'elle a incité nos chers et tendres amis vendeurs à revoir leurs tarifs ? On en est où du côté des prix ?
On en est exactement justement à un endroit qui fait et qui prend tout son sens. Comme vous le savez, les consultants qu'on appelle chez nous sont les négociateurs immobiliers. Donc là, je peux vous dire qu'on est complètement dans le vrai. Et cette période finalement un peu compliquée en dents de scie, on aura peut-être le temps d'en parler. On a fait un sondage et aujourd'hui, ce sont... 2/3 de nos agences l'adresse qui ont répondu qu'ils connaissaient un marché en dents de scie. Si on rajoute les 25% de ceux qui trouvent que le marché est au ralenti, on a pratiquement 90% d'un marché compliqué.
Ouais.
Compliqué, ça veut dire qu'il faut s'adapter, faut être professionnel, faut avoir des propos, faut avoir des solutions, des services. Bref, les vendeurs aujourd'hui sont à l'écoute.
Moment de la crise inflationniste de l'Ukraine,
beaucoup plus.
En 2022,
c'est le temps qui fait les choses. Et pareil, alors, je vais peut-être avoir un peu moins de précision dans les chiffres, mais je crois que si on ajoute les baisses de prix entre 4 et 8% et celles qui sont entre 8 et 15%, je crois que c'est pas loin des 2/3 des agences qui répondent aujourd'hui que les ventes qui sont rendues possibles sont de deux types. soit celles qui sont des mandats finalement fraîchement rentrés, avec des vendeurs complètement aguerris, avec un projet d'acquisition dans l'autre sens et qui savent très bien que le temps ne va pas forcément jouer en leur faveur. Ces mandats-là se vendent généralement pratiquement au prix. On a aujourd'hui des ventes.
Quand le prix est bon, oui.
Voilà. Et puis l'autre type de vente, parfois avec des mandats qui sont là depuis un peu plus longtemps, où là, clairement, je vous le dis, il va falloir entendre parfois des baisses jusqu'à 8, 10, 12% pour que les planètes s'alignent.
Mais là, enfin, votre réseau l'adresse, mais tous les autres qui ont publié ces derniers jours, ils constatent quand même un allongement des délais de vente.
Oui, il y a un allongement parce qu'en effet, il y a beaucoup de vendeurs qui tentent leur chance. Qui se disent pour telle et telle raison. Vous savez, si demain on devait écrire une pièce de théâtre sur l'immobilier, je dirais je ne suis pas pressé. Le client lambda, il vous répond toujours quand vous essayez de le convaincre
de baisser le tarif.
Qu'il faut entendre raison. Il vous dit de toute façon, je suis pas pressé.
Jusqu'au jour où il le devient.
Exactement. Ouais. Et c'est ceux-là finalement qui font que les délais se rallongent et que généralement ils sont perdants en bout de ligne. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on a deux typologies qui font le dynamisme. Quoi qu'on en dise du marché, parce que aujourd'hui en termes de nombre de ventes, on est sur 12 mois glissant, on est à pas loin de 900, 950 000 transactions, ce qui est quand même un volume suffisant pour que tous les acteurs qui sont concernés par ce métier s'y retrouvent. Aujourd'hui, très clairement, les vendeurs sont beaucoup plus à l'écoute et ont bien compris qu'ils n'avaient pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression sur la mise en vente de leurs biens. Et la tendance, clairement, reste pour ceux qui tentent leur chance avec des baisses qui sont parfois conséquentes.
Belle négo en perspective.
Ouais, et ça, c'est une vertu justement de ces hausses de taux qu'on a annoncées, c'est que quand on annonce des hausses de taux, les vendeurs comprennent bien également que c'est pas le moment de gonfler les prix, bien au contraire, et que finalement la partie, la capacité d'emprunt va être diminuée. Et comme Brice le dit souvent, c'est pas une question de vouloir acheter au prix, c'est la question de pouvoir acheter et à quel prix. Donc c'est vrai que les annonces de ces hausses de taux ont permis aussi aux vendeurs de comprendre aussi plus vite avec le travail des agents immobiliers qu'il fallait baisser les prix. Et finalement, il y a ces planètes qui sont finalement alignées, mais sur un marché qui s'est réduit pour cause d'attentisme lié à cette guerre. Et c'est pour ça que le travail des banques aujourd'hui d'inciter à passer à l'action avec des offres spéciales, des prêts à taux aidés qui se prolongent sur le mois de juillet, il va être crucial pour relancer la machine qui quand même est déjà repartie. Nous, on l'a vu au mois de juin, avec après un mois de mai beaucoup plus calme aussi.
Ouais, ouais.
Et sur le mois de juin, 25% de demandes supplémentaires par rapport au mois de mai. Et au global, sur le premier semestre, il y a 7% de demandes supplémentaires par rapport à l'année dernière. Qui avait déjà
été un très bon
niveau.
Voilà, donc on reste pour l'instant sur une année qui pourrait être positive finalement. C'est-à-dire que quand vous disiez on a peut-être évité le pire, je vais même essayer de tirer à la ligne et vous demander est-ce que finalement on va pas avoir là des baisses de taux qui se profilent, parce que vous parliez des offres commerciales des banques, on a parlé de la Société Générale, mais il y en a d'autres, il y a le Crédit Agricole, etc. Vous pourriez nous en donner quelques-unes sans problème, mais le sujet c'est est-ce que en bout de bout, au-delà de ces prêts bonifiés, de ces offres un peu dédiées, ponctuelles, est-ce que on va avoir le 3,5% du moment passer peut-être à 3,4, à 3,3, à 3,2 en fin d'année?
Il serait possible, mais c'est pas pour ça qu'il faut attendre, mais il serait possible avec une inflation qui baisse, si la Banque Centrale Européenne ne remonte pas assez tôt comme on l'avait envisagé au mois de septembre, même si cette perspective s'éloigne, il serait possible que pour que les banques bouclent leurs objectifs, il serait possible qu'en septembre on ait
de nouvelles offensives,
quelques baisses de taux. Là, déjà sur le mois de juillet, on a une banque spécialisée, mais qui a baissé ses taux de 0,20, toutes les autres qui les ont maintenus stables. Donc c'est vraiment ce jeu de l'offre et la demande. Et les banques qui vont avoir besoin et envie de stimuler à nouveau les emprunteurs, donc de quelques baisses de taux ne seraient pas exclues. Et quand je repense à certains experts qui en début d'année disaient qu'on terminerait l'année avec des taux à 4%, aujourd'hui, c'est pas du tout envisageable et c'est quand même une bonne nouvelle.
Oui, mais à chaque jour suffit sa peine, Sandrine. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise inflationniste et un nouveau problème géopolitique. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on va peut-être avoir, vous parliez de planètes qui s'alignent. Donc, on va peut-être avoir possiblement une baisse de taux et une baisse de prix.
Alors, vous savez que je suis personnellement très optimiste. Maintenant, je reviens sur le sondage qu'on a effectué auprès du réseau de l'adresse. Autant le dernier sondage, il y a 3 mois, on avait eu un nombre important de nos associés qui pensaient que le marché serait meilleur dans le deuxième semestre.
Ouais.
On a constaté dans le dernier sondage qui date d'il y a quelques semaines que cette tendance était inversée.
Ah, bon.
C'est-à-dire qu'on est passé, de 2/3 qui étaient optimistes à 2/3 qui sont plutôt pessimistes. Alors qu'il y en a certains qui pensent que le deuxième semestre va être à l'identique. Et pour un nombre qui a doublé, ils pensent que ça va être pire. Donc, on s'emballe pas. Mais moi, vous savez, j'ai un adage que j'aime beaucoup, c'est ce qui est pris n'est plus à prendre. J'aimerais rappeler, sous le contrôle de Sandrine, qui maîtrise bien évidemment beaucoup mieux le sujet que moi, que quand on parle d'augmentation des taux, je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, 0,20% d'augmentation des taux. Si on prend le foyer, le ménage classique pour emprunter un bien avec 200 000 euros d'emprunt, 0,20, c'est demander au foyer de passer de 4 500 euros de revenus nets à 4 800 de revenus nets. 300 euros net aujourd'hui, c'est pas loin de 450-500 euros d'augmentation brute. C'est pas la tendance aujourd'hui du contexte économique.
J'ai pas le sentiment.
Et c'est pour cette raison qu'on perd des acquéreurs. Une fois de plus, vouloir pouvoir. L'effet un peu yo-yo où on comprend pas, on met un bien en vente, on est persuadé, nous, agents immobiliers, que ce bien va susciter grand nombre d'appels, visites, offres et ventes. Et puis finalement, on a pratiquement pas d'appels, peu de visites et pas d'offres. Pourquoi? C'est pas des acteurs qui ont décidé de se dire « je boude le marché », c'est qu'ils ont tout simplement disparu du marché. Et aujourd'hui, clairement, j'entends, et j'apprécie en effet qu'on ait peut-être un scénario avec une baisse des taux, mais c'est pas ce qu'on disait sur ce même plateau il y a quelques semaines.
Bien
on
sûr,
disait
c'est ce qu'on... Mais qu'on était plutôt... on est quand même très, très
voilà,
mesuré
il faut...
et
voilà,
très prudent.
Et
hein.
Je pense que ça, à défaut d'avoir perdu, parce que clairement, pour les raisons que je viens de vous évoquer, on a perdu aujourd'hui des acteurs, des acquéreurs potentiels, primo notamment, beaucoup de primo, même s'ils sont encore nombreux, tant mieux pour eux, on en a perdu. Ce sont ceux-là qui sont extrêmement actifs avec cette notion de « il vaut mieux un tien que deux tu l'auras
ouais, »
sans faire un mauvais jeu de mots.
Et juste parce qu'il nous reste que 4 minutes et que le temps s'écoule hyper vite, justement, en fait, si on se projette un peu... sur ce qui peut aussi amener finalement la bonne négociation avec notre banquier et avec nos amis vendeurs pour ceux qui veulent acheter par exemple, il y a quels arguments qu'on peut faire valoir, parce qu'on va pas se cacher derrière notre petit doigt, il se passe 2-3 trucs au niveau du climat. Est-ce que par exemple sur les diagnostics de performance énergétique, la résistance du bâti aux fortes chaleurs, au froid, etc., est-ce que c'est des choses à faire valoir quand on négocie soit avec son banquier, soit avec son vendeur?
Alors, je fais très court pour que Sandrine ait le temps de répondre. C'est marrant parce que le DPE, vous m'auriez interrogé il y a encore, un mois. Je vous aurais dit, c'est pas finalement, autant ça a été une grosse tendance, ça a été le premier frein, la première anxiété, le premier truc anxiogène dans l'achat, la première chose. On avait un peu perdu cette démarche du DPE. Les gens avaient fini par s'y habituer, comprendre qu'il y a problème, il y a toujours une solution. Avec ce sujet de canicule où tout le monde aura compris, surtout s'il y a une deuxième vague qui arrive dans une quinzaine de jours, que c'est peut-être quelque chose qui va devenir finalement habituel, l'histoire du DPE, plus pour pas avoir froid, mais pour éviter d'avoir chaud, revient complètement sur le sujet. Oui, ça y est, on revient avec aujourd'hui des biens qui sont malheureusement mal notés et qui sont beaucoup plus dépréciés que les autres.
Alors pour l'instant, pas d'impact sur l'obtention des crédits. Pour négocier avec son banquier, mais là aussi c'est le moment puisqu'on a dit il y a quand même moins d'acheteurs et des banques qui veulent prêter. Donc non, la canicule n'a rien à faire là-dedans. Ça va être toujours quand même l'apport personnel parce que ça va quand même réduire le risque pour la banque. Des comptes bien tenus. On est en période de Coupe du Monde. Pas trop de paris sportifs. Pas des montants trop élevés sur les paris sportifs.
Pas trop de boissons le soir.
Et puis voilà, montrer une bonne tenue des comptes. Un peu d'apport personnel et un projet qui tient la route et on doit pouvoir négocier
un bon taux. Non, bien sûr, Sandrine, mais par rapport à ce diagnostic de performance énergétique, pour revenir un peu boucler la boucle là-dessus, est-ce que c'est un argument à faire valoir auprès de la banque quand il est bon? Comment je fais pour passer justement outre le fait qu'il soit mauvais, par exemple, auprès de la banque, puisqu'on a dit très longtemps que c'était un sujet pour les banques? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques toujours en ce moment en fonction des diagnostics?
Non, ce qui pourrait devenir un peu préoccupant, c'est avec l'utilisation des clims, des ventilateurs, etc., si ça fait s'envoler les factures d'électricité, parce que je crois qu'on va vite constater que ça a quand même un impact. Et là, ça pourrait du coup être pris en compte par les banques comme dans les charges et elles pourraient être plus attentives aux dépenses énergétiques des logements et du coup à nouveau au DPE, comme ça avait été le cas au moment avec la flambée du coût de l'énergie. Donc ça, attention quand même, climatisation, attention à l'impact sur les factures.
Et la banque peut nous demander s'il y a la clim dans notre logement?
Elle peut voir le DPE et peut-être à terme regarder les dépenses énergétiques.
Ouais, non, mais c'est intéressant parce que justement, le diagnostic actuel était censé aller au-delà des simples dépenses qui finalement parlaient beaucoup des usages, mais pas tant de la structure du bâti. Et si demain on nous demande justement avec quoi.
Comme les charges de copropriété, hein, si ça continue à augmenter, ce sera de plus en plus aussi regardé parce que ça va venir dans toutes les dépenses additionnelles d'usage qui viennent se rajouter au crédit quand on est propriétaire.
Allez, vous avez 30 secondes chacun pour me dire votre perspective de taux d'intérêt moyen sur 20 ans en fin d'année et nombre de transactions pour cette année 2026. Et prix. Tant qu'on y est.
Vous commencez ou
je vais me prononcer sur les taux. Je pense qu'en moyenne, on va rester sur aux alentours de 3,5% avec des écarts évidemment importants en fonction des profils.
Pour plein de raisons que je n'ai plus le temps d'évoquer, je reste positif et je reste convaincu que le deuxième semestre sera à minima aussi bon, quoi qu'on en dise, que le premier, voire meilleur.
Donc, ça veut dire combien de volume de vente? 950 comme l'an dernier?
Je pense qu'on va encore être à 950 comme l'an dernier.
Et des prix en hausse, en baisse?
Là-dessus, ne nous emballons pas. Les planètes ont besoin encore de s'aligner. D'autant, comme je le dis, 8 ventes sur 10 sur un marché dynamique passent par la case banque. Si les taux restent à 3,50, il faudra encore entendre raison sur les prix, c'est-à-dire des prix qui soient stables, voire pour certains types de biens à la baisse.
Non, mais je vous embête, hein, Brice, mais il y en a certains. Alors, je vous le dis, il y a des réseaux qui tablent sur une baisse de prix de 3% sur l'ensemble de cette année 2026 et qui auraient préféré moins 5, mais qui ne pensent pas que ce sera jouable. Est-ce que vous pourriez, par exemple...
Je crains une inverse, que rappelez-vous que sur ce plateau, justement, il y a eu un moment donné, quand les volumes sont repartis, vous avez voulu m'embarquer sur...
Ouais.
On dit que les prix augmentent, ouais. Et bon, bref, on n'a pas le temps de dire que c'était sur une courte durée de combat. Si vous me dites que mes homologues et néanmoins confrères me disent que c'est les prix plutôt à la baisse, je soutiens complètement cette voie-là. C'est celle de la raison et c'est celle qui permettra notamment avec des vendeurs qui savent entendre que le marché, c'est l'acquéreur qui détermine le marché. C'est grâce à ça qu'on arrivera à faire beaucoup de volume et une belle rentrée en 2026.
Stabilité des taux, stabilité des volumes, baisse de prix, mais formidable cette fin d'année 2026. Grâce à vous, Brice Cardy, président du réseau L'Adresse, et Sandrine Allonier, la porte-parole de Vous Financer avec nous dans les experts de l'IMO sur BFM Business. On revient demain à l'heure de votre déjeuner.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.